Quelle fut l'émotion de Saint Luc lorsqu'il entend pour la première fois ce récit de la nouvelle alliance que Dieu vient faire avec les hommes? En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Juste quelques versets qui nous racontent une histoire très humble et pour cette raison d'une grandeur bouleversante, nous dit Benoît XVI. Saint Luc évoque un souhait de César qui désire recenser tout son monde, sûrement pour lever des impôts. Mais cela nous permet aussi d'inscrire la venue du Messie dans un lieu particulier, à un moment bien précis de l'histoire humaine. Saint Ignace nous encourage à entrer dans la scène. Eh bien, n'ayons pas peur de nous retrouver sur la place à Nazareth. Imaginons l'arrivée des Romains. C'est une annonce officielle. Un roulement de tambour, des trompettes, un crieur public. Il y a bien de l'animation aujourd'hui. Les uns sortent de leur maison, les affaires s'arrêtent, les langues se taisent. On se rassemble autour des Romains. Avis à la population, à la demande de César Auguste, etc., etc. En entendant cela, la colère commence à sourdre dans le cœur. Voyons, écoutons comme on rouspète, on discute. Un recensement, tu parles. Ils vont nous compter comme des bêtes pour nous taxer davantage. Oh, ces fichus romains! Vivement le Messie, tiens, qui les mettra tous dehors! Toi, tu vas où? Et toi, Joseph? À Bethléem. Tu pars quand? Je ne sais pas, je vais voir ça avec Marie. Eh oui, tu pars avec Marie. Dans son état, mais c'est de la folie. Oh, cette annonce a dû faire naître bien des remous. Encore une fois, on se dit qu'on n'agirait vraiment pas comme le bon Dieu. On a envie de lui dire, Seigneur, toi qui es le maître du temps et de l'histoire, tu n'aurais pas zappé quelque chose par hasard? Ce recensement, en même temps que la naissance de ton fils, tu n'aurais pas pu décaler au moins légèrement l'un ou l'autre événement? C'eût été bien plus simple pour tout le monde. Au contraire, il fallait bien ça. En se rendant à Bethléem pour le recensement, Joseph a accompli à l'égard de l'enfant la tâche importante et significative d'inscrire officiellement le nom de Jésus, fils de Joseph de Nazareth, à l'état civil de l'Empire. Cette inscription manifeste clairement l'appartenance de Jésus au genre humain, homme parmi les hommes, citoyen du monde. Ainsi est donc officiellement écrit sur le registre l'entrée de l'Éternel dans le temps. Et Dieu Tout-Puissant s'est simplement servi d'un édit de l'empereur pour faire naître son fils là où il l'avait prévu de toute éternité. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est ce que nous dit le prophète Michée. Mais ce n'est certes pas de gaieté de cœur que Joseph et Marie se sont mis en route. Visitons la petite maison de Nazareth où tout était prêt pour accueillir l'enfant. Et quel enfant ! Peut même très bien deviner dans un coin de l'atelier le petit berceau que Joseph avait fabriqué. Comment ? Vous pensez que lui, un charpentier, n'aurait rien préparé pour déposer l'enfant ? C'est impossible. Il suffit de voir un artisan réaliser son chef-d'œuvre pour imaginer facilement Joseph choisissant ses meilleures planches, les polissant avec un amour particulier pour fabriquer ce berceau qui allait accueillir l'enfant Dieu et devenir ostensoire. Et c'est avec autant de délicatesse que Marie avait dû prévoir des linges et tout le nécessaire pour accueillir la vie. Sainte Anne même, en bonne grand-mère, avait dû tricoter des chaussons. Vous savez, ce n'est pas si anecdotique que cela. Le salut qui passe par l'humanité se réalise dans des gestes qui font partie de la vie familiale quotidienne, nous disait Saint Jean-Paul II. Dieu s'est fait homme. Il a voulu connaître toutes les étapes de notre vie, naître dans une vraie famille humaine, suivre les habitudes et les coutumes de son peuple. Demandons à Marie ce qu'il y avait dans son cœur, alors qu'elle ne vivait plus avant Jésus-Christ, mais avec Jésus-Christ, d'une manière si unique. Demandons-lui. Pendant ces 9 mois où tu partageais une telle intimité avec ton enfant et ton Dieu, qu'y avait-il dans ton cœur, Marie ? Peut-être pensais-tu au psaume te disant que cette fois, les rôles étaient étrangement inversés. À ton tour, tu aidais le Créateur à tisser celui qui t'avait tissé dans le sein de ta mère. En effet, pendant 9 mois, la mère et l'enfant vont prendre corps ensemble. Le ventre de Marie va s'arrondir comme celui de toutes les mamans sous le regard émerveillé de Joseph. Assurément, le cœur de l'enfant et le cœur de la mère ont grandi ensemble. Marie aperçut avec émotion les premiers battements du petit cœur de son fils. Imaginons un peu la proximité du Sacré-Cœur et du cœur immaculé dans cette arche de la Nouvelle Alliance. Elle a ressenti aussi les petits coups de pied qui la faisaient sursauter comme toutes les mamans, sous le regard admiratif et curieux de Joseph. Ce dernier, a-t-il osé poser sa main sur le tabernacle vivant ? Marie a vécu une attente en tout semblable à celle que connaissent les femmes qui portent la vie. Cependant, Marie enceinte est doublement remplie de vie puisqu'elle porte la source même de toute vie. Doublement emplie d'espérance puisqu'elle porte l'espérance du monde. Et celui que tout le peuple attend est blotti dans ce jardin clos pour 9 mois. Temps nécessaire pour lui fournir le corps et le sang qu'il nous offrira à son tour, pour nous aider à tisser ici-bas notre vie éternelle. Marie façonne bien mystérieusement le pain de notre vie. Cette belle simplicité des hommes et des femmes de notre monde, que Dieu est venu habiter en s'incarnant. Oui, naturellement tout était prêt à Nazareth, mais le Créateur du monde en avait décidé autrement. Rejoignons Joseph et Marie, préparant le nécessaire pour ce voyage d'environ 130-140 kilomètres. Par égard pour Marie, Joseph a dû prévoir des étapes un peu courtes. Si tout se passe bien, c'est l'histoire d'une douzaine de jours. À leur retour, ils retrouveront tout ce qu'ils ont préparé. Ils saluent les voisins, leur confient la maison, l'atelier, et se mettent en route dans le froid et la foi. Vers la cité de David, ce berger devenu roi 1000 ans plus tôt. Ils ont pour principale compagne de voyage leur pauvreté, la richesse de leur foi et ce trésor sans prix que Marie porte en son sein. Cheminons avec eux. À quoi pense-t-il ? De quoi parle-t-il ? Imaginons même comment est le chemin, nous dit Saint Ignace, s'il est grand, s'il est large. Marchons à leur côté et suivons cette procession secrète du Saint-Sacrement. Connaissent-ils ce qu'avait prophétisé Michée 7 siècles plus tôt ? Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas ? Si oui, ce n'est certes pas sans émotion qu'il coopérait ainsi à écrire l'histoire de la rédemption.